Donc pour vos mariages, bar mitzvah, enterrements, tout ça, n'hésitez pas. Je sais pas si on quand est-ce qu'on commence ou quoi, vous dites. Je peux prendre sinon des requêtes. Si vous connaissez un jeu vidéo des années 80 ou 90 ? Bomberman. Hein, hein, hein. Alors. Années 80. Outrun. C'est trop, c'est des trucs de jeunes, ça. C'est sur les vieux trucs. Ce petit intermède, quand vous me dites hein, quand c'est le... Ah oui, on est bon, d'accord. C'est... Rien du tout, rien du tout. Non, allez. Non. Ah, ça c'est... Voilà, je me suis récemment découvert une passion pour la flûte à nez, autrement appelée nose whistle en anglais, ce qui fait de moi un nose whistle blower. N'est-ce pas? Ça fait un bien fou, un plaisir infini de vous retrouver toutes et tous. C'est comme ce petit moment de vacances entre amis, ce week-end prolongé qu'on s'accorde tous pour se voir, se retrouver, se faire plaisir. Mais alors, je sais pas comment dire ça, parce que je suis avant tout super content et ravi d'être ici. Et puis je viendrai et je reviendrai, même si j'y étais pas invité en fait. Mais quelque part, j'ai pas grand-chose à te dire. Je suis là avec un micro dans la main devant plein de gens formidables et j'ai à très peu de choses près rien à dire. Donc bonjour, je suis Jérémy, je suis un ancien activiste à la retraite. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai lâché les rênes d'une partie, une grande partie, on va dire, de l'organisation de la Quadrature du Net. Donc je fais d'autres choses depuis, mais j'ai fondamentalement pas grand chose à dire là. Enfin, si, je pourrais parler de 1000 trucs, et ceux qui me connaissent savent bien qu'au détour d'une bière ou ailleurs, on aura toujours des choses à se raconter. Mais du coup, en fait, pour moi, le THSF apparaît comme ce truc essentiel. On a besoin de ces moments, de ces événements, pour se retrouver, et en même temps, j'ai eu comme l'espèce d'un sentiment d'habitude. Me dit, ben oui, c'est le THSF, donc je vais avoir une conf, c'est très sympa, on m'invite et tout. Et là, j'ai comme une espèce de pas de recul qui coïncide avec des questionnements personnels. Et sans entrer dans le détail de ma vie, ni m'allonger là-dessus comme si c'était un divan, mais si, un peu quand même, en fait. Il est quelques-uns de mes questionnements personnels que j'ai du coup envie de partager avec vous. Et du coup, j'ai envie en fait de vous poser des questions plutôt qu'être celui qui va parler tout le temps. J'ai envie de vous poser des questions parce que c'est des questions que je me pose en fait d'après une sorte de double privilège. J'ai été pendant un certain temps de faire partie de cette espèce de caste, cette petite élite des activistes. Un activiste, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui s'intéresse au monde autour de lui, mais qui est en général financé pour le faire. Et ça, il y a peu de gens qui ont ce privilège. Voilà. Donc, on y est arrivé en bossant dur avec la quadrature du net, tout ça, UCD Info, logiciel libre, machin, vous connaissez une partie de l'histoire sans doute. Mais bon, pendant un certain temps, j'ai eu ce privilège qui m'a permis d'aller au plus près des institutions, de me poser ces questions politiques au niveau les plus hauts que je souhaitais cibler, quelque part. Et je suis sorti de ça avec des questionnements très très profonds. Bon, certains d'entre vous le savent que j'ai fait un burn-out. Bon, il y a pire dans la vie. Je suis pas à plaindre, hein, globalement. Regardez, j'ai survécu. Je vis et je bouge encore. J'ai fait un burn-out, mais j'ai été doublement privilégié parce que, notamment grâce à Pôle Emploi, j'ai pu me permettre de prendre le temps de survivre à ce burn-out, prendre le temps de me reconfigurer, prendre le temps de me poser des questions avec du recul sur cette période de temps où j'étais déjà privilégié. Donc, c'est pas une question de partager ce privilège parce que c'est toujours un petit peu difficile, mais je suis curieux de savoir si certains de ces questionnements qui sont les miens résonnent en vous. Et comment ? Donc, je vais énumérer un certain nombre de points, en fait, un certain nombre de questions que j'ai envie de vous poser, pas nécessairement dans cet ordre-là, et puis je vais vous passer le micro, si vous êtes d'accord. La première, c'est justement comment peut-on essayer d'apprendre à chercher au-delà de nos habitudes ? J'ai l'impression que l'habitude est toujours quelque chose de bloquant. C'est quelque chose de confortable. On sait, pour ceux qui bossent dans l'informatique, que c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile à changer. Quand un projet informatique foire, 9 fois sur 10, c'est parce qu'il y a quelque part des habitudes qui n'ont pas changé ou qu'on n'a pas su accompagner le changement de ces habitudes-là. Les habitudes, c'est quelque chose qu'on a chevillé au corps, qui quelque part nous définissent, mais par définition qu'on a intériorisé. Et qu'on a intériorisé, donc on ne voit plus. Donc quand on a l'habitude, par exemple, de voir un nouveau projet de loi et de se dire « Ah, c'est vraiment pas bien !» Et puis on va écrire un communiqué de presse pour dire « Ah, c'est vraiment pas bien !» Et il faut que machin, et puis qu'on prenne nos téléphones pour appeler. Ça devient quelque part une habitude. Quand on se dit, bon, là, on a un problème de société, on est quelques-uns, on a envie de faire quelque chose, on va créer une association. Quelque part, c'est une habitude aussi. Quand on se dit, on a du temps pour être tous ensemble, donc on va mettre quelques gus sur une estrade, sur un podium, avec un micro à faire les clowns, pendant que les autres vont attendre de peut-être avoir le temps de poser des questions derrière. Là aussi, c'est une habitude. Comment on pourrait s'entraîner tous ensemble, quel mécanisme on pourrait s'amuser, comme avec le reste, à questionner nos habitudes, à changer nos habitudes, et notamment peut-être aussi pour rendre nos vies, nos entourages, nos mouvements, s'il faut les appeler ainsi, plus inclusifs. Je ne peux pas m'empêcher de voir qu'il y a deux femmes sur l'ensemble du programme de THSF, alors qu'il y a manifestement une proportion dans le public là, qui est bien plus élevée que ça. J'ai essayé de partager mon temps de scène avec une femme, mais c'est pas comme ça. De toute façon, ça résout rien. J'ai vu que la question a été posée publiquement. Certains ont répondu oui, mais il y a eu un appel à participation et peu de femmes ont répondu. Eh bien, si c'est le cas, peut-être qu'il suffit d'aller en chercher certaines dont on sait qu'elles sont dans le coin et leur demander pourquoi elles n'ont pas répondu. Ou je sais pas. Justement, c'est une question que je me pose. Comment, en cassant nos habitudes sur nos façons d'être ensemble, sur les formats avec lesquels on expérimente. Voilà. Comment on peut casser avec ces habitudes, notamment dans l'objectif d'être plus inclusif. Encore une fois, je ne veux surtout pas avoir l'air de cracher dans la soupe, déjà parce que ici au THSF, il y a sans doute un des publics les plus divers que je connaisse dans un événement à cœur. Aussi parce que cette formidable expérience avec la traduction simultanée en langage sourd et muet, c'est un truc, c'est absolument magnifique. Et je suis... Ouais, je suis immensément fier de tout ça, voilà. Donc bravo le THSF, hein. Je suis pas du tout en train de cracher dessus. Au contraire, je pense qu'on est à ce point capable d'inventer, pardon, et de se réinventer et que justement ici, plus qu'ailleurs, est un lieu peut-être pour se poser ces questions-là. Une autre partie, en fait, c'est, je m'aperçois que c'est à peu près la même question. De toute façon, j'arrive pas à me relire, c'est comment aller au-delà des formats. Par quels moyens pouvons-nous expérimenter pour aller au-delà des formats traditionnels? Parce que là encore, on est dans des habitudes, et le format conférence, avec un amphithéâtre de gens silencieux qui attendent de pouvoir demander l'autorisation de parler, et quelqu'un fier d'une grande assurance qui va parler, parce qu'il a le statut qui lui permet, ça rappelle quand même vachement les amphithéâtres d'université, ça rappelle quand même vachement les salles de classe, c'est quand même un truc vachement à la papa. Alors, encore une fois, hein, THSF, regardez, c'est presque surtout ce qui se passe là-bas autour du bar, des dizaines de trucs, etc. Mais encore une fois, comment expérimenter avec les formats? Alors vraiment, je vous pose une question ouverte. Est-ce que vous avez des expériences personnelles? Est-ce qu'il y a des formats que vous connaissez qui pourraient être utiles à ça? Avec une bande de potes, on a une idée un peu folle. On a commencé à faire une tea house, un salon de thé, dans un camp de hackers. Et ça a tellement bien marché qu'on l'a refait dans des conférences de hackers en Allemagne et dans d'autres camps de hackers, etc. Et ben juste en disant, on va être un peu con, on va servir du thé à des gens qui sont là pour parler d'informatique et d'autres. Et ben en fait, non, ça super bien, ça continue super bien marcher, parce que les gens se sont les uns contre les autres, se parlent, il y a de l'eau partout, alors il n'y a pas de laptop, etc. Donc comment on peut faire pour imaginer, inventer des nouveaux formats? Une autre question, alors là c'est un autre pan complètement différent, et je m'aperçois que je suis déjà en train de trop parler. Vous voyez ce que ça fait d'avoir un micro en face de... Bon, bref. Comment on peut... la première question déjà posée, merci. Oui. Comment on peut... Et je ne suis même pas sûr d'avoir un mot pour ça. Attendez, je vais reformuler. Très souvent, quand on est enferré dans ces habitudes-là, on applique en fait des réflexes, des conditionnements. Parce que 10 fois précédemment, quand il y a eu un projet de loi, on a dit qu'il faut appeler les députés pour dire que gna gna gna. Quand il y a un projet de loi qui arrive, ben, on se dit qu'il faut appeler les députés pour dire que gna gna gna. En réalité, à chaque fois qu'on a remporté quelque chose d'important, et quand je dis « on », ce n'est pas juste la quadrature du net, c'est « on » en général, c'est quand on a su saisir des moments, quand on a su être dans des petits maintenant, dans des séries d'instants, quand on était toute la journée aux quatre coins du Parlement européen, dans tous les groupes politiques, avant, pendant et après la réunion, et que dans la journée, on avait 4 versions différentes d'un texte en cours de négociation, qu'on leur disait « hé, Coco, tu es en train de faire ça, là ». Et qu'un communiqué de presse sortait 30 minutes pour dire « il y a Coco qui est en train de faire ça, là », et qui prenait peur, et que dans les 2 heures d'après, ils retournaient dans la négociation et ils faisaient ce qu'on leur demandait de faire, c'est pas parce qu'on avait impliqué un réflexe, c'est parce qu'on était là, dans la place, avec un sens de tout ça, avec des antennes un petit peu partout. Donc comment on fait, là aussi, dans votre pratique personnelle, culturelle, militante, comment on fait pour favoriser, c'est pas le bon mot, comment on fait pour être dans le moment, pour capter ces moments-là, une fois qu'on a peut-être réussi à se débarrasser de ces habitudes, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, j'allais dire ensemble à nos amis maintenant, mais la référence sera un petit peu trop flagrante. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour être plus dans le maintenant, dans le moment? Et j'écris un truc là, révolution. Je sais pas ce que ça veut dire. Ensuite, et en fait, je m'aperçois que toutes les questions que je vais vous poser sont différentes facettes peut-être d'une même question. C'est comment on fait pour éviter le piège de l'institutionnalisation. Et je dis ça avec d'autant plus de doute, si j'ose dire, d'autant plus l'authenticité de mon questionnement, qui est que vous savez très bien, si vous avez suivi, que la quadrature du net s'est institutionnalisée. C'est un choix stratégique que l'on a fait il y a 4 ans, de se dire, avoir un crétin qui bugle et qui dort pas et qui va bientôt mourir, qui fait ça tout seul et qui essaye d'emmener des gens dans son sillage et qui, en se brûlant, brûle les gens autour et on n'a pas besoin de martyrs et de trucs, et, genre ça marche pas. Au lieu de ça, on va essayer de faire un truc où les gens seront tranquilles, auront une vraie vie, viendront de 9h à 18h, avec un boulot, avec un salaire, etc. Il nous semblait que c'était une voie vraiment humaine, juste de faire les choses. La quadrature du net est tout à fait nécessaire encore aujourd'hui, je pense, et fonctionne. Mais qu'est-ce qui nous arrive quand on prend justement des habitudes de cette institutionnalisation? Quand on est tellement dans un mode de pensée qu'on finit par plus voir la boîte autour, quand tout ce qu'on fait, c'est envoyer, et encore, je ne veux pas avoir l'air non plus de cibler la quadrature du net, c'est pas du tout l'objet, mais quand tout ce que l'on fait, par exemple, je sais pas, imaginons qu'on ait une institution culturelle, et qu'on se retrouve aller dans le bureau de tel élu, de trucs et de machin, et discuter, et négocier, et ceci et cela, comment on fait pour ne pas nous tomber dans les travers de ces institutions que, a priori, on a envie de combattre ou dont on veut s'émanciper. Est-ce que vous avez des recettes, des trucs, des exemples, des expériences à partager sur comment combattre les aspects néfastes de cette institutionnalisation? Comment ne pas nous transformer en nos adversaires? Comment ne pas, en luttant contre l'oppression, se transformer nous-mêmes en oppresseurs? C'est pour moi une question absolument fondamentale dans ce qui m'a animé jusqu'à présent et dans ce qui m'anime aujourd'hui, et je pense que dans ce qui m'animera dans le futur, j'aurai toujours cette espèce de quête autour de ces questions-là. Autour d'une bière, on pourra parler de Hacking with Care ou d'autres projets qui m'animent, mais c'est pas la question ici. J'ai vraiment envie de savoir à quel point ces doutes sont seulement les miens ou s'ils sont les vôtres aussi, et qu'on prenne du temps, et là encore, pas seulement dans ce format-là. Vous avez compris, je sais pas, il nous reste quoi, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. pas seulement dans le temps qui nous reste là pour échanger, mais dans les heures d'après, avec de la bière ou non, hein, je bois aussi du vin, hein, rassurez-vous, ou même plus tard, que l'on continue de se les poser et de se les poser ensemble et de partager ensemble les éléments de réponse, les bribes de réponse que l'on trouverait ici ou là. Voilà, à vous le micro, à vous la parole. Un deuxième micro.
Merci Jérémy. D'abord, alors là, tu nous as balancé deux questions au départ, puis c'était trois, puis maintenant c'est quatre, enfin cinq. Ça va être très difficile de répondre à tous ces points. Je vais laisser mon téléphone mourir tout seul. D'abord, merci de ta franchise, d'avoir partagé aussi ta partie vie personnelle, etc., à travers de ça. Et alors, moi, j'y suis sensible parce que. Au titre d'une fréquence montpelliéraine, je suis un petit peu dans la même situation.
Laquelle ?
Divergence FM 93.9. Okay. Ceci mis à part, la première question, c'était... Alors, la première réponse que j'avais, c'était quand on fait des tâches répétitives qui nous semblent ne plus avoir de sens, parce qu'elles sont extrêmement exigeantes, parce qu'on doit les faire tous les jours, et que c'est un peu comme creuser le sillon ou faire des gammes pour le musicien, ou refaire mille fois le même geste pour le mec qui rabote le bois pour t'amener le plus beau morceau de bois du monde, enfin, peu importe, ces trucs-là, ils sont rébarbatifs. C'est chiant de faire les gammes, c'est chiant de faire ces exercices de chant pour les chanteurs, c'est chiant de réviser ces trucs de maths pour les mecs qui font de la gestion, etc. Mais si chaque matin, on voit la même chose sous un angle différent, on lui redonne de la richesse et de la valeur, et on évite de déprimer aussi. Ça, c'est mon point de vue en tant que musicien, directeur de radio, le mec qu'on appelle quand on va pas bien et qui doit trouver les clés, etc., machin, etc. Tout simplement, le truc débile, c'est performatif, c'est presque la méthode Coué, mais c'est simplement de se dire, oui, tous les matins, il y a des trucs que je dois faire. Genre chier, quoi. Faire la bouffe. M'assurer que les enfants ils vont bien, qu'ils sont motivés ce matin, qu'ils sont de bonne humeur, etc. Déceler le bidule, etc. Voir si tous les chats ont mangé, enfin... Toutes ces conneries, si le linge, si moi je suis homo foyer en ce moment, c'est merveilleux. Je vous le dis vraiment, les mecs, si vous avez l'occasion d'être homo foyer, putain, c'est le pied. Bon, après, j'avais des compétences, j'ai bossé en cuisine, tout ça, enfin, il y a des choses que je sais faire. Mais ce que je veux dire, c'est regarder tous les trucs qui nous paraissent cons et chiants et qu'on n'a pas envie de faire. Si tu changes le prisme sur lequel tu les regardes tous les matins, là, tu as une clé.
Et comment tu fais ça en pratique?
Tu te mets à la place d'un photographe et tu dis.
groupes et dans les ateliers peut-être en taille plus réduite, c'est passer le micro à quelqu'un qui est à côté et qui le fera passer à quelqu'un d'autre. Voilà.
Super, merci. Je suis entièrement d'accord avec toi. L'organisation du débat public, de la discussion, mais c'est hélas pas aussi facile que de tendre le micro à quelqu'un, parce que comment tu perçois quelqu'un d'une minorité, cette question de la discrimination positive est elle aussi très, très complexe. Mais je suis entièrement d'accord avec toi sur les objectifs. Mais je suis le premier coupable à parler beaucoup trop longtemps.
Ben, moi, je vais casser l'habitude. J'ai absolument pas l'habitude. Je crois que c'est une des premières fois que je parle dans un micro. Mais c'est vrai, je trouve ça assez agressif malgré tout. Je préférerais juste qu'on sorte et tu vois, qu'on se capte et qu'on aille boire quelque chose et qu'on discute. Forcément, oui, ces questions-là que tu as posées, je me les pose et les gens autour de moi aussi. Et donc, je pense que ça résonne dans plein de têtes. Et voilà, c'est hyper compliqué d'en parler comme ça. Voilà, j'entends ma voix, là, ça me fait trop bizarre. Et du coup, j'ai juste envie de passer le micro à quelqu'un d'autre.
Merci.
Bonjour, Jérémy. Merci. Dans ton intervention, Jérémy, tu as parlé des habitudes, des femmes et du THSF et des formats. Donc, je vais intervenir sur un témoignage sur les formats, justement. Donc, sur les territoires hackers, les chercheurs sont fascinés par les outils, les GitHub, les façons de travailler. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'aimerais les remercier parce que c'est vrai qu'ils ont donné, pas qu'aux institutions, mais aussi à d'autres associations, des moyens de partager, Framasoft aussi. Excellent. Ils ont été félicités la semaine dernière au Fab Lab de Toulouse, des outils qu'ils ont fournis. Et là, ce que j'ai vu, moi, chez les makers, donc c'est un autre espace, un autre territoire de partage, puisqu'ils sont fascinés donc, par les outils des hackers, mais ils inventent aussi des espaces entre les workshops et les conférences. Donc là, tu essayais de nous dire quelles sont les solutions pour décentraliser ou horizontalité du lien entre le speaker et le public. Donc, ils ont inventé, par exemple, la nacelle. C'est un objet. Finalement, c'est qu'un mobilier. C'est un prétexte, pas de pédagogie. Mais la nacelle, c'est un outil qui est bien connu sur Toulouse, qui est sympa, qui se place dans les couloirs, tout simplement, où on s'installe et les projets naissent. Et une fois encore, projet, ça fait un peu institutionnel aussi, peut-être. Mais c'est des temps sur lesquels on peut se poser, un peu comme le temps d'une bière ou quoi que ce soit, mais qui crée un lien entre le moment où les gens ont des idées, parce que c'est ça qui est important, finalement, entre les hackers, les makers, tout ça. C'est qu'on a des idées, on veut se retrouver et on veut les concrétiser. On veut réduire cette distance entre le dire et le faire. Voilà. Et on est tous très actifs là-dessus. Merci.
Super bonne définition, merci. Ouais, ouais, ouais. Je crois effectivement vachement le fait de créer des occasions. Créer des occasions autant qu'on peut.
Bonjour. Du coup, quand on cherche des solutions, on parle souvent de temps et on en rediscutera autour d'une bière. Et peut-être qu'une des solutions, c'est de créer des PMU en fait dans les villages et de s'installer en fait, de casser les habitudes des autres en créant un lieu qui n'a pas vocation à être là, de prendre la place de métiers qui ont disparu. Moi, je fais de l'informatique, de l'ébénisterie et j'ai fait les beaux-arts. Et du coup, j'aime bien ces métiers-là en fait, qui étaient dans les villages, le menuisier de village qui accompagnait la vie et qui faisait tout ce qui se passait en fait, du berceau jusqu'au cercueil. Et je pense qu'il y a un espace en fait, qui s'est laissé dans les campagnes en fait, et dans les villages, et qu'aller se mettre là où il y a beaucoup d'espaces abandonnés, de friches, c'est peut-être une solution pour nous, hackers ou makers ou autres, en fait, artistes, de s'installer, de créer une surprise et nous aussi de recevoir des surprises en fait par les gens qui n'ont pas habitude d'être ici ou d'échanger ou de se poser des questions comme on se les pose aujourd'hui.
Voilà. C'est intéressant ton point. Ça fait penser un peu à l'histoire du magasin général de Tarnac. Et je me demande si quelque part aujourd'hui le hackerspace c'est pas un petit peu notre bar PMU à nous. Et quelque part, certains d'entre nous, la plupart d'entre nous, sont d'une génération qui est soit née dans un ordinateur, soit pas loin, où on a plein de likes et de friends et de followers et de machins comme ça, mais on n'a pas forcément appris le lien social face à face comme les générations avant. Quoi. Typiquement, on a très peu été au bar PM. J'étais petit, on allait vaguement au café quand il y avait une machine d'arcade ou un flipper. Mais c'était à peu près tout. Donc, ouais, se réancrer dans le territoire, dans le terrain, dans la réalité pour créer ces occasions, créer ces moments, je pense que c'est ouais, sans doute une bonne piste. Merci pour ça.
Je vais abuser un peu et parler une deuxième fois. Il y a un monsieur là, de l'illégal qui a une espèce de lieu un peu atypique, pas très loin de Toulouse. Et ils avaient organisé un événement autour de la combustion de bois, en fait, et de comment on fabrique des poêles aujourd'hui et comment on se chauffe en utilisant moins de bois et en ayant une meilleure combustion. Et j'étais pas dans ce délire-là, en fait. Et c'était hyper technique. Il y avait des gens de tout milieu et c'était assez intéressant, en fait, d'avoir cette surprise, en fait, d'avoir des gens très compétents, des gens qui ont testé par expérimentation ou par étude et qui finalement se retrouvent dans des lieux où on peut avoir un a priori ou un préjugé, en fait.
Voilà. Merci, c'est intéressant.
Bon, en fait, je vais revenir un peu sur ta première chose sur les habitudes. Parce que c'est une question que je me suis posée il y a quelques mois au boulot. Moi, je fais un métier qui est hyper cadré. Moi, je suis infirmier, donc voilà, c'est très, très strict. Quand même, on a des fiches de poste, des choses comme ça. Et en fait, j'ai la chance de travailler de nuit, donc avec une équipe restreinte. Et on était plusieurs à se poser cette question sur les habitudes, parce que voilà, on fait un passage à minuit, un passage à 2 heures. Enfin, c'est hyper ritualisé. Et on s'est dit, mais moi, j'ai pas forcément envie de passer à 2 heures du matin à accrocher des petites poches d'antibiotiques dans toutes les chambres. Par contre, j'ai une collègue qui est passionnée par les antibiotiques, machin, ok. Et donc, on s'est dit, au lieu de chacun suivre parfaitement sa fiche de poste, pourquoi on ne ferait pas chacun ce qu'on a envie de faire? Et du moment que le taf est fait sur la nuit, de manière correcte, et qu'au matin, quand l'autre équipe arrive, tout s'est très bien passé. Et on s'est mis à faire ça, un peu comme ça, entre nous. Et finalement, ça a super bien marché. Et on a remarqué qu'on était beaucoup plus productifs. C'est-à-dire que chacun en faisant, ça marche très bien pour ceux qui travaillent en équipe, mais en s'entre-déléguant les tâches, ça nous a permis du coup de fonctionner d'une façon différente. Et finalement, on passe des moments plus agréables et on avance un petit peu plus loin dans le travail, au lieu de faire juste ce qui est là. Voilà, il faut faire ça, on le fait. Du coup, on le fait, mais à chaque fois avec un peu plus, avec un peu d'amélioration. Et donc, c'est peut-être une piste pour ceux qui travaillent en équipe, qui veulent un peu casser le truc de chacun fait ci, chacun fait ça. Qu'est-ce qu'on aime faire et qu'est-ce qu'on a envie de faire, même si ce n'est pas forcément dans la fiche du poste, mais si c'est dans la fiche du poste du voisin, mais pourquoi on ne s'échangerait pas des tâches finalement? Voilà, petite idée.
Ça sonne comme une super piste, en effet, suivre son instinct, suivre ses envies, suivre sa passion quelque part. J'ai peur que ce soit une sorte de privilège en soi, parce que voilà, y a plein de situations dans lesquelles c'est peut-être pas aussi, y a peut-être pas autant de liberté donnée aux individus quand ils sont salariés. Après, ce que tu décris, c'est précisément s'émanciper de cette espèce de fordisme où chacun est devant un poste, un boulon à serrer, qui a été, je crois, précisément inventé pour à la fois déshumaniser la chaîne de montage et donc le travail et rendre les individus remplaçables. C'est précisément, je crois, une forme de contrôle social que cette attribution de fonctions comme si les individus étaient des machines en attendant de les remplacer par des machines, hein, vraiment. Oui, je suis convaincu que là, il y a un truc essentiel. C'est conserver nos humanités, valoriser nos humanités au-delà des cases. Et oui, je nous souhaite à tous de pouvoir conquérir un tel privilège, quelle que soit l'activité à laquelle nous nous livrons dans le futur. Merci. Est-ce qu'une femme veut attraper le micro juste tentative de discrimination positive. Ah oui, voilà.
Attends, je te l'ai mené.
Désolé pour la discrimination, même si elle est positive.
Alors, ce qui manque avec la discrimination, c'est que ici, là, bon, je suis plutôt dans la majorité, hein, puisque je suis un garçon, je fais de l'informatique un peu, comme ça.
Et puis, t'es blanc.
Et du coup, quand au boulot, c'est carrément l'inverse. Hein, je me cache dans un coin parce que je suis le seul mec avec 23 filles autour de moi.
Bonjour. Donc, tu demandais s'il y avait des formats, je vais rester debout, s'il y avait des formats qui permettaient éventuellement à plusieurs personnes de prendre la parole, des trucs qui seraient plus interactifs et moins descendants. Moi, il y en a un qui m'est venu en tête, ça s'appelle le Cercle Samoan. Pas si quelqu'un le connaît ici. L'idée, c'est d'être tous à plat. Donc, on est tous à plat sur des chaises. Il y a 2 cercles. Le premier cercle, au milieu, il y a 5 chaises. Et la règle, c'est qu'il faut qu'il y en ait une de vide. tout le temps. Et autour, d'autres chaises, un grand cercle avec d'autres gens. Seuls ceux qui sont sur le cercle du milieu ont la parole. Tout le monde peut aller au cercle du milieu, parler. Et quand une personne arrive, il faut que quelqu'un s'en aille. C'est en ligne, c'est un format de recette participatif. Et c'est en ligne sur un espace qui s'appelle Multibao, c'est multi-boîte à outils. Donc c'est disponible.
Super, comment tu dis que ça s'appelle encore?
Le cercle samoan.
Comment tu appelles ça?
Bah, comme tu sais, les îles Samoa.
Samoa.
Ouais. Ouais, ah ouais. Samoa.
Waouh, super. C'est là. Si je suis réinvité l'année prochaine,
on fait un grand
je demanderais qu'on fasse un cercle comme ça.
Voilà.
Merci.
Tu demandais un autre format aussi, peut-être pour casser les habitudes ou changer, ou évaluer ce qu'on faisait. Les agilistes, ils ont des rétrospectives. C'est juste un petit temps où on se pose et on évalue ce qu'on a fait, ce qu'on voudrait améliorer. Donc comme ça, ou comme le cercle Samoan, tu peux changer les règles du jeu. Là, cette année, j'ai vu qu'il y avait des présentations éclairs. THSF, il y a plein d'autres formats comme ça qui existent si on creuse. Donc il faut aller creuser, mais on peut changer les règles du jeu de notre fonctionnement quoi, aussi.
C'est doublement intéressant ce que tu dis, parce que bon, tu mentionnes les agilistes comme si tout le monde savait de quoi ils parlaient. Il s'agit de la méthode agile de développement, c'est ça ?
Oui.
Oui, effectivement, il me semble qu'il y a des trucs très intéressants là-dedans, mais je me demande dans quelle mesure c'est pas un truc qui est vraiment orienté production, et dans quelle mesure ça favorise pas l'émergence d'un objet, comme tu vois, d'un projet ou d'un truc vraiment, vraiment concret, un truc à produire, et dans quelle mesure ça se fait pas un petit peu au détriment de l'expression des humanités. Je sais pas, hein, c'est juste une question que je lance en l'air. Mais le deuxième aspect très intéressant pour moi, c'est, oui, j'ai peut-être pas été assez explicite à le dire, tu l'as dit très bien, c'est ces processus qui nous permettent de nous questionner et de remettre vraiment en question qui nous sommes, ce que nous faisons, et de prendre ça comme une espèce de modus vivendi, quoi, de style de vie. Et je crois effectivement qu'il y a un peu de ça dans la méthode agile, ou en tout cas que le fait d'avoir une régularité dans les contacts forcés, entre guillemets, enfin, dire voilà, tous les mardis, matin, il va y avoir tel truc, où tout le monde participe, c'est une très bonne façon au moins de faire remonter ce genre de questionnement. La question de la régularité, je ne sais pas s'il y a nécessairement ça dans la méthode agile, mais le fait de dire, c'est pas on fait une réunion quand on peut, ou c'est même pas on fait une réunion par semaine, mais on fait une réunion le mardi matin, ça, dans toutes les structures où j'ai vu, c'était une recette gagnante. Ouais.
Alors moi, j'ai un autre... j'ai fait un jour un meet-up avec des agilistes, justement. Ils ont un format qui s'appelle des open space. Et en gros, ça consiste en des petits groupes voués à partager la connaissance. Donc il y a un sujet par petit groupe. Et tu peux te déplacer de petit groupe en petit groupe. Et donc, c'est le but étant de partager la connaissance, mais aussi d'apprendre ce que tu as envie d'apprendre. C'est-à-dire que tu ne restes pas passif à un endroit, tu peux aller ailleurs et participer.
Ça ressemble vachement au reste du THSF. Mesdames, messieurs, amis martiens, martiennes, luniens, luniennes, alors par rapport à la question des habitudes, moi je pense qu'on vit potentiellement une époque formidable parce que à peu près tout le monde a accès à un petit device de type smartphone et je pense qu'avec de la bonne volonté, pas mal de réflexion, on pourrait jouer notamment sur tout ce qui est gamification qui est très utilisé par des entreprises à la con, à la Zynga pour faire plein de sous. On pourrait aussi l'utiliser entre guillemets, encore que c'est une pente assez glissante à bon escient, pour essayer d'impliquer les gens. Et je pense qu'il y aurait moyen comme ça d'essayer de théoriser, de développer des prototypes pour permettre des démarches en mode démocratie liquide, mais avec beaucoup de points d'interrogation. Et c'est clair que c'est pas... C'est pas un gus dans son garage qui va faire ça. Par contre, quelques gus dans un garage ou dans l'herbe, ça peut, à mon avis, permettre de motiver les gens. C'est marrant.
Mais c'est aussi dangereux. Alors, je sais pas.
C'est marrant parce que moi j'ai précisément l'impression qu'on vit une époque potentiellement détestable parce qu'on a tous un machin comme ça dans sa poche pour des raisons que tu partages hein, sans doute. Mais du coup, qui vont quand même poser ces questions-là, c'est que si on est obligé de passer par un Google machin ou par un Apple machin pour faire notre truc, on va être forcément à un moment ou un autre menacé. C'est-à-dire, on va faire un bon vrai logiciel libre avec des vrais morceaux de GNU dedans. Mmh. On va mettre sur F-Droid, on va forcément se couper de 98% ou 99% des utilisateurs. Mais sur l'idée d'utiliser des mécanismes du jeu, voire des mécanismes de l'addiction qui sont de plus en plus utilisés dans les mécanismes du jeu pour faire avancer des causes et des idées, ça, oui, j'en suis sûr, c'est une très très bonne piste. Nos amis de Tactical Tech avaient fait Ono, le robot. Ono, le robot, c'était un bot jabber. Donc tu ajoutes un contact dans ton jabber et il commence à te parler en disant « Hey, je suis Ono, le robot, j'ai un truc super important à te dire, mais bon, pour ça, il faut que tu chiffres tes communications. Alors reviens me voir quand tu es en OTR. » Alors tu reviens en OTR et dis « Oui, alors bon, on va discuter, maintenant, il faut que tu m'envoies un truc en GPG. Voilà ma clé publique, voilà de la documentation. » Et en fait, c'est un bot, donc il n'y a rien vraiment derrière, mais c'est bien fichu. Et au mieux, tu scriptes ça, au mieux, ça donne vraiment l'impression de parler à quelqu'un. Ça, c'est une, je pense que c'est ouais. Écrire comme ça des aventures textuelles ou autres pour parler des sujets qui nous intéressent. À mon avis, ça vaut tous les communiqués de presse. Ouais. Merci pour ça.
Bon, ok, ça vaut mieux le contact direct, mais... Il y a quand même une potentialité de mettre en relation par communauté d'intérêt qui est assez intéressante et qui peut, à mon avis, permettre aussi de décloisonner et de... Ouais.
Si tu sors de ta bulle Google, quoi.
Oui, c'est clair. Ouais. Les bulles... Attention aux bulles, les gens.
Ici ? Madame ? Ah, si ? Non, mais si ? Ah, c'est trop tard maintenant. Tiens, t'as demandé la parole, tu la prends. Attends, il est où le micro ? Ah, ben non, mais non, il y avait elle d'abord. Tiens, mais si. Tiens, attends, prends celui-là.
Je suis outré par le comportement de ma voisine de gauche. Je lui sucirais des choses à l'oreille, elle a appelé le micro.
Il m'a dit qu'il voulait casser.
Oui, alors moi je voulais.
Il m'a dit qu'il voulait casser l'ambiance, alors je croyais qu'il voulait parler.
Non, en fait, mais j'étais pas prêt. Ouais, je vais pleurer peut-être à un moment donné. Non, c'était juste par rapport à l'habitude. En fait, je trouvais intéressant l'idée de casser une habitude sur le. Enfin, moi, c'est sur la conférence elle-même. Et en même temps, je me dis là, moi, enfin, alors, il y a, genre, on discute entre nous, etc. Et alors que moi, je trouve que la conférence en elle-même, c'est pas une habitude. Quelque chose de descendant comme ça, avec quelqu'un qui vient parler devant nous, on est passif, etc. Mais c'est pas nécessairement une... Je trouve ça intéressant de la questionner, et je vais peut-être passer pour un gros conservateur et me faire lyncher. Mais est-ce que moi je viens ici aussi pour voir entendre parler quelqu'un qui a réfléchi, qui a des choses, pensé à des choses auxquelles j'ai pas pensé, et je me dis c'est une habitude qui n'est pas insensée. Où je veux, si voilà une conférence, c'est pas une habitude qui n'a et d'avoir quelqu'un, un speaker qui revient, etc. C'est pas quelque chose qui pour moi est insensé quoi. J'entends l'interrogation et je la trouve saine, mais comment ? Ou obsolète ? Non, c'est pas obsolète. Voilà, je trouve intéressant d'avoir un débat, mais je me dis est-ce qu'il n'y a pas des formats où on les annonce ? Ben il y a des débats et on fait un débat et là qu'il y a une conférence, il y a quelqu'un qui vient avec des choses auxquelles il a pensé, auxquelles moi j'ai pas pensé. Voilà.
Merci, ouais, tu peux réessayer hein, quand tu veux. Je vois ce que tu veux dire, merci, hein, je voulais pas non plus être insultant, je veux absolument pas dire qu'être dans le public c'était juste être un gros naze ou quoi, c'est pas du tout le... Ah, micro, ah oui. Il y a des moments où quand je passais à la télé et tout, des gens m'arrêtaient dans la rue, quoi, me disaient « Ah, c'est super que vous soyez là, c'est tellement bien, je suis tellement content, merci », genre... Et à chaque fois, ça me fendait le cœur et j'avais envie de pleurer. Parce que ce qu'on essayait de faire avec la quadrature, c'était de montrer que n'importe quelle bande de gus dans n'importe quel garage pouvait aller faire chier le monde et bosser assez dur et se faire entendre assez pour avoir une pouillème d'impact quelque part. Et le fait que des gens, parce qu'ils se retrouvaient dans une position à juste regarder, par le format qui faisait qu'ils regardaient juste, se retrouvaient de fait à se dire « Bon, ben voilà, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. » Et c'est super, hein. Mais ça reste quelqu'un d'autre qui le fait. Donc est-ce que la conférence, elle n'a pas aussi cet effet pernicieux Moi, je suis persuadé qu'il y a la moitié des gens ici qui seraient tout aussi pertinents que moi, qui ont plein de choses à raconter. Quand tu nous parlais de ce truc dans un bar à la campagne, où, non, on dit pas la campagne, je suis désolé, merde, dans, rural, un joli mot. Enfin, non, je trouve ça joli la campagne, mais quand t'es né à Paris, tu dis la campagne, c'est terrible. Bon, bref, les types qui parlaient tu parlais de feu, de combustion et de machin. Il serait hyper intéressant d'avoir quelqu'un pour parler de ça ici. Toi, vous avez tous des trucs à dire. Donc le problème, je crois, c'est vraiment une espèce de création d'une espèce de hiérarchie, d'une espèce de statut qui rappelle les hiérarchies et les statuts dont on essaye de se défaire. Maintenant, oui, enfin, il m'est arrivé plein de fois d'avoir plein de trucs à raconter, d'avoir été je regrette rien, hein, soit clair. Mais je pense qu'on est tous capables quelque part de donner une conférence sur quelque chose, et je suis un peu frustré de ça. Mais merci pour toi. Oui.
Oh mon mari, le problème c'est pas la vie, le problème c'est pour être capable d'être. Oui. On peut. Je crois qu'il est normal de respecter la hiérarchie du savoir à partir du moment où on est capable d'écouter le public. Oui.
Merci. D'être humble, de respecter le public. Merci. Mais c'est cette pratique du questionnement personnel.
On a besoin d'avoir un mec de confiance. Non, on vient voir. Pour parler de savoir avec vous. Après le moment où vous voulez capable de me donner la parole, parce que bien. Voilà.
Merci. Merci. Mais justement, on apprend, on se définit par cette pratique du partage de la connaissance. Et cette humilité, le mot est fort, mais c'est une espèce de culture du questionnement. En ce qui me concerne, c'est d'être aussi exigeant avec moi-même que j'essaye de l'être avec les autres et avec le monde. Et cette pratique du questionnement, je pense que là aussi, c'est quelque chose dont on bénéficierait à le partager de la même façon qu'on partage des trucs et astuces sur IP ou le Python, parce que c'est pas forcément naturel. Si t'es né homme blanc valide, on te dit que le monde est à toi, que tu machin, et que et ce questionnement-là, il vient pas, voilà. Bon, moi je suis fils unique, je suis névrosé, tout ce que tu veux. Donc je sais pas pourquoi ça m'est arrivé quand j'étais petit. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un truc naturel. Et je ne sais pas vraiment comment partager ça, mais aussi comment partager ça à un point où ça ne devient pas un frein. Parce que si tu questionnes tout le temps et que tu te retrouves à faire que ça, bon, peut-être que tu vas écrire des traités de philosophie ou je ne sais pas, mais tu ne vas pas non plus agir. Donc trouver cet équilibre entre questionner mais agir et partager ça ensemble, c'est loin d'être évident. Mais oui, merci. Du fond du cœur.
Ça s'appelle de la rétrospection.
Ouais, ouais, ouais. Merci.
Je voudrais revenir sur le principe de l'habitude. Tout à l'heure, tu prenais l'exemple de l'habitude de se retrouver au PMU. Qui est un très bon exemple. En fait, il y avait une habitude sociale de se retrouver pas nécessairement sur les thématiques. Et il me semble que c'est un peu ce que l'on perd aujourd'hui, une habitude de se retrouver. Pour moi, cette habitude-là est tout à fait positive. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas casser. Le principe d'une conférence, je veux bien, mais le principe de se retrouver au THSF, ça, il ne faut surtout pas le remettre en cause. Personnellement, je le trouve. Oui, il faut essayer d'inventer de nouvelles choses, mais de nouvelles habitudes. De nouvelles habitudes. Changer les habitudes, mais sachant que l'habitude, c'est une façon de faire, de structurer un type d'action. Si on a une habitude de faire quelque chose, elle se peaufinera au fur et à mesure et elle deviendra de plus en plus efficace. Je pense que c'est une mauvaise chose de dire. Il ne faut surtout pas faire ne surtout pas avoir d'habitude et de faire à chaque fois quelque chose de différent. Je tombe dans c'est l'excès inverse en quelque sorte.
C'est intéressant ce que tu dis. Je crois qu'il y a là peut-être une distinction à faire entre une habitude et peut-être un savoir-faire. Parce que quelque chose que tu pratiques, que tu améliores au fil du temps, que potentiellement tu partages, c'est un savoir-faire. Organiser un événement comme le THSF, c'est un savoir-faire. Peut-être qu'ils seraient capables, tellement ils sont forts, d'en organiser un par mois, et ce serait génial aussi. Peut-être que s'ils en faisaient un tous les 4 ans dans un champ avec des tentes, comme le font les amis du CCC, ce serait génial aussi. Il y a peut-être là effectivement une différence à faire entre savoir-faire et habitude. Toutes les habitudes ne sont évidemment pas à jeter aux orties. Quand Gilles tout à l'heure parlait de s'occuper de ses gamins et de faire à bouffer ou de faire caca le matin, oui, il y en a forcément que tu as besoin de garder. Donc merci pour cette distinction. Est-ce qu'il est temps d'aller boire des bières et d'avoir moins chaud? Ouais, je trouve ça passionnant. Je vous remercie. Ah oui, Gilles, alors.
Si vous êtes un professionnel et que vous utilisez des outils propriétaires, leur fréquence de mise à jour est très lente. Donc déjà, si vous utilisez des logiciels libres, vous vous rendez compte que leur fréquence de mise à jour est très régulière. Et changer ses habitudes, c'est quand le logiciel se met à jour, il te dit « Ah, maintenant je peux faire ça ». Il anticipe ta formation professionnelle continue, quelque part. Ça s'appelle comme ça hein, dans le milieu professionnel, la formation continue. Dans le monde propriétaire, tu peux attendre 5 ans avant la nouvelle mise à jour de trucs machin shop. Et de toute façon, il faudra la payer en plus la mise à jour. Et tu n'es même pas sûr que ce sera intéressant. Alors que dans le monde, tu as une distribution basée sur du Linux. Bah, tout est logiciel tous les jours.
On dit GNU Linux. On dit GNU Linux.
Pardon, GNU Linux. Tous les jours, tes logiciels, ils interrogent pour voir s'il y a un nouveau truc, etc. Parce qu'il y a un gentil contributeur qui a eu l'intelligence de rajouter une fonctionnalité, ou en tout cas, ou de corriger un bug, ou de rajouter une traduction, etc. Cet écosystème-là, il est vertueux, et il te pousse toi-même à te mettre à jour tous les matins. Donc changer ses habitudes, c'est être prêt tous les matins à le faire, si d'aventure il y a une mise à jour. Mais la mise à jour, on peut aussi la décider, nous, quand on a acheté, je ne sais pas, une tondeuse à gazon qui est tombée en panne, on peut la réparer nous-mêmes et décider sa mise à jour. On peut décider nous aussi les mises à jour. Je pense que c'est un comportement qui doit être tous les matins le truc, même le truc banal. De toute façon, il faut toujours le regarder différemment parce que aucun matin n'a le même ciel.
Eh ben écoute, voilà, la voilà la conclusion.
Hein, aucun.
La voilà la conclusion et elle est belle. C'est que peut-être que nous hackers on va trouver comme ça moyen d'utiliser des logiciels pour nous aider à briser nos habitudes. Peut-être que nous, humains, il va falloir qu'on se mette à jour comme on met à jour nos logiciels et qu'on pense régulièrement à cliquer le machin pour se mettre à jour nous-mêmes. Peut-être qu'on va faire ça tous ensemble, avec de la bière ou pas, THSF ou pas. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup pour tous ces commentaires, toutes ces suggestions, toutes ces participations et tout ça. Voilà, je vous aime tous beaucoup.